Émission On en jase sur Boulevard 101. Il est exactement midi 41. Donc, à la météo, aujourd'hui, c'est 10 degrés de la pluie. Donc, présentement, il n'en tombe pas, par exemple. Donc, on va souhaiter qu'il ne tombe pas trop de pluie. On annonçait un 5 mm. Donc, peut-être que ça va passer en vent. Demain, 8 degrés, possibilité d'averse. Mercredi, 6 degrés, pluie intermittente. Jeudi, 4 degrés, nuageux. Bref, Pascal, là, on s'en sort pas. Là. L'été au mois de novembre, ça n'existe pas, là, finalement.
Là. Non, puis c'est bien correct. Moi, je trouve que l'automne, ça fait du bien parce que tranquillement, on va commencer à hiberner, là. On va dans le temps des fêtes. Il y a quelque chose de relaxant là-dedans.
J'ai travaillé dehors toute la fin de semaine. Crème que j'aime ça, l'automne, travailler dehors, l'air fraîche et pur.
L'impression de rien manquer. Ouais. Tu sais, l'été, là, quand t'es à la maison.
Mais t'as raison.
Puis sinon, t'es en dedans, puis si tu fais une sieste, il y a quelque chose de... Non, tu te sens pas bien. Alors voilà.
Oh, le cocooning.
Prescription de cocooning.
Je suis très d'accord avec ça. On va aller voir Irénée Rutema, notre chroniqueur municipal que nos auditeurs adorent. Irénée, t'es-tu du genre cocooning, toi?
Écoutez, je pense que j'ai manqué un petit bout, là, mais je peux vous dire que... Oui, je dirais que oui, là, mais ça, dépend des fois.
Ah, Irénée, un petit cocooning, un petit film avec sa petite conjointe à côté, ça fait toujours du bien. Hein?
Exactement, et ma conjointe voyage beaucoup, donc quand elle n'est pas là, j'occupe au divan devant Netflix, souvent avec un bon verre de vin.
J'adore ça, Irénée, j'adore. Irénée, en passant, merci beaucoup, parce que toi et Pascal Sévé, vous êtes les étoiles du match hier, alors que t'avais le téléphone dans les mains, oui. Que tu nous parlais, Pascal te fait signe, Albert Marchand passe, pitch-moi mon téléphone, puis bang, ça s'est donné qu'on a parlé avec Bruno Marchand.
Écoutez, c'était mais bravo, et je pense qu'elle est rendue ma meilleure amie plus que toi. Ah!
Mais je comprends pas comment ça t'es tombé sous le charme de Pascal, alors que c'est moi que tu connais depuis plus longtemps, Irénée, je suis jaloux!
Tu peux être jaloux, mais on s'est rencontrés et là, un œil, là, vraiment, là, on a travaillé en équipe comme si on se connaissait depuis des millénaires.
Ben, c'est ça.
Donc, on est allé en avant prendre une petite vidéo avec Monique Néron. Moi et elle, on a Monique Néron est là. Par la suite, donc, quand vous m'avez appelé, mais je ne répondais pas, vous l'avez appelé, nous sommes sortis à l'extérieur.
Oui.
Tout d'un coup, j'étais perdu dans mes explications et vous dites, le maire est là, on va le chercher, on lui donne nos téléphones. Et là, son équipe était là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a parlé avec lui, vous avez parlé avec lui. Il ne voulait pas raccrocher. Son équipe disait, il faut qu'on le sorte. Et Pascal a eu une idée de génie. Il a écrit une note dans mon cahier. Et a montré au maire, je pense que... Mais elle a effacé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. Là.
J'ai écrit, c'est correct, si vous voulez raccrocher, parce que je voyais que... Je sais c'est quoi une soirée électorale, ça va vite. Puis souvent, ben voilà, nous, on avait été extrêmement chanceux, on avait passé devant plein d'autres médias pour avoir cette première entrevue-là officielle, mettons, à la radio, parce qu'on l'avait attrapé là, sur le côté. Mais je voyais qu'il se faisait tirer de part et d'autre. Ouais. Donc, j'ai juste écrit « si jamais », parce que ça faisait un bon 5-6 minutes. Par respect.
Pascal Sévé, t'as une touche parfaite.
Mais t'es tellement professionnel que t'as effacé le mot.
Oui! C'était ton cahier, c'était pas le mien.
Oh, j'adore ça.
Je vais marquer la date pour les archives. Là.
Ça, c'est des petites histoires là, dans les coulisses que j'adore savoir. Irénée, avec Antonine, on a beaucoup parlé de Stéphane Lachance et de Bruno Marchand. J'aimerais t'entendre sur Sam Abad. C'est une catastrophe. Leadership Québec, aucun élu. À peu près 14% finalement qu'on termine au niveau des intentions de vote. Bref, Sam Abad, ça n'a jamais élevé.
Écoute, M. Ahmad a fait patate et j'ai beaucoup de peine en disant ça parce que, mais je n'ai pas le choix. Il est revenu en disant qu'il aimait Québec et là, hier, il a assisté à un spectacle de désamour de la part des gens de Québec. Et j'aime la politique, je respecte l'individu, mais c'était une campagne épouvantable. Du début presque jusqu'à la fin, des erreurs de débutants. On a parlé des erreurs dans les médias sociaux, dans la vérification des candidats. Et moi, ce qui m'a surpris et qui m'a frappé, c'est que samedi dernier, je suis allé dans son événement. Et là, les gens qui étaient dans son entourage, les candidats étaient complètement déconnectés parce que ils essayaient de m'ostiner. Ça va super bien, tout se passe bien sur le terrain, les médias, vous allez être surpris.
Mais c'est le discours habituel de la politique, là, où encore ils se croyaient, mais souvent on va dire ça parce qu'on n'a pas vraiment le choix puis il faut continuer de rallier les troupes.
Oui, mais je pense, mais des fois, on peut te spinner, mais après ça, ils te disent, écoute, je peux pas te dire la vérité, mais ça paraissait vraiment que ils m'ont spiné, puis j'étais là, je dis, mais écoutez, moi, les chiffres que j'ai, ce que j'entends sur mon propre terrain, ce n'est pas ça, mais peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas se démotiver. Mais donc, et j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour Isabelle Roy, qui avait traversé de l'autre côté de la chambre, Steven Mélenchon, et lui, Martin. Je me suis dit, son matin, quand ils se sont réveillés, ils ont dit, oh là 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 là, on a aucune intuition politique, et ça fait... je pense qu'ils vont prendre quelques jours de congé, mais ça, Mamad a déçu. Écoutez, il est parti quand la campagne a débuté. Je pense que un an avant la campagne, il était à 2 points de kilo séparés avec monsieur...
En effet.
Monsieur
Marchand.
Marchand. Par la suite, le sondage de 2024 disait que 50% de gens avaient une opinion favorable de M. Hamad contre 48% pour M. Marchand. Et tout s'est effondré. Et lui qui disait tout le temps, le vrai sondage, c'est le terrain. Mais là, le terrain lui a dit, non, merci M. Hamad, retournez, je le dis respectueusement, à Saint-Augustin et prenez un petit peu de vacances en Floride, là, aller jouer au golf, mais c'était humiliant, là. C'était désastreux. Et il m'a fait penser à M. Coderre, là. Vous vous souvenez quand Madame Jack Smith avait dit M. Hamad, c'est le Coderre
De
Québec. Et aussi, là, je vais donner la citation à M. Villeneuve. C'était vraiment un touriste dans la campagne municipale à Québec et les chiffres le démontrent royalement.
Est-ce que Irénée, ça va faire en sorte justement, ça met fin à ces vieux politiciens qui ont été un autre palier de gouvernement, que ce soit au fédéral et au provincial, et qui viennent se présenter justement comme candidats? Est-ce que ça laisse... Oui, vas-y.
Mais la politique, c'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1+1=2. Regardez à Lévis, M. Blény a gagné. Vraiment, alors c'est un ancien politicien conservateur, ancien ministre, mais j'ai l'impression, du moins à Québec, que je maîtrise mieux qu'aujourd'hui, là, nous sommes rendus ailleurs. Donc, on veut des nouvelles idées, on ne veut pas des gens qui nous ramènent dans le passé. Et M. Hamad, ça a été ça, sa faiblesse, c'est que c'était un candidat quand j'étais ministre. Quand j'étais ministre, voici ce que j'ai fait. Quand j'étais président du Conseil du Trésor. Donc, lui, son expérience qu'il répétait continuellement nous faisait croire que c'était un gars du passé. Et ça lui a collé à la peau jusqu'à ce qu'il échoue complètement.
Hier, on parlait, toi et moi, hors d'onde, Irénée, parce qu'on était dans le rassemblement de Bruno Marchand, puis on se disait, écoutez, là, c'est festif, ça crie, fait chaud, la salle est pleine, les gens sont là, multigénérationnels dans la salle, les enfants de Bruno Marchand, sa nouvelle... On voyait que c'était euphorique, puis en plus, à chaque fois qu'il y avait un candidat élu ou réélu, ça recommençait. Il y a quelque chose de très effervescent, il y a quelque chose autour du pouvoir où il faut faire attention souvent dans la vie aussi, parce que ça donne beaucoup, disons, d'envie de régner d'une manière ou d'une autre. Après, on voit la grandeur d'un politicien de la manière où il va user de son leadership. Cette fois-ci, il est majoritaire. On a vu quelques frasques au niveau du charisme, quelques frasques au niveau du ton, de l'écoute. Est-ce que tu essaies de regarder comment ça va se passer pour Bruno Marchand pour la suite? Est-ce des choses que tu vas surveiller foncièrement?
Oui. Je vais surveiller ce qui suit. Puis hier, écoute, il y avait les frais. C'était la folie. Et je note que quand Eleni a été élue, écoutez,
Eleni Lepage,
la gang criait, là, c'était, elle a volé la vedette à M. Marchand. Et M. Marchand était triomphaliste et avec raison. Mais tu te rappelles, on a parlé avec une conseillère de M. Marchand. Et elle, que je connais, et j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui est proche de Marchand, ils étaient heureux, mais je les ai sentis humbles dans la victoire et surtout conscients des défis et des responsabilités qui s'en viennent parce que ils ont beaucoup de nouveaux élus qui n'ont pas d'expérience. Et il faut gérer toute l'équipe. Oui. Et là, ils vont nommer du staff politique là, dans le cabinet du même Marchand. Après ça, ceux qui vont aller au conseil exécutif, là, donc le gouvernement municipal, vont être choisis. Et donc, je les ai sentis vraiment, on vient de gagner, mais là, on a un grand travail qui nous attend. Et je les ai sentis très humbles et j'avais l'impression eux ne célébraient pas comme Marchand ou les élus célébraient. Mmh. Alors, ce que Marchand doit faire attention, c'est donc faut qu'il soit humble de la victoire, très 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 humble. Et il a dit aussi qu'il allait être le maire de tout le monde et qu'il allait aller dans les banlieues. Il faut qu'il aille prêcher la bonne nouvelle dans les banlieues, prêcher la bonne nouvelle auprès des gens qui sont des automobilistes afin qu'on avance vraiment, là, que la ville puisse avancer. Mais aujourd'hui, il peut triompher, mais le travail va arriver dès aujourd'hui. Et ce que j'ai aimé, je l'ai écouté dans d'autres entrevues, il disait qu'il va écouter jusqu'en janvier avant de mettre une proposition sur la table comme il faut. Là. Donc c'est ça que moi je sens, que j'ai ressenti hier.
Irénée Rutema, chroniqueur en politique municipale pour Boulevard 101, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Et on se reparle bientôt, sûrement vendredi, pour un petit bilan de la semaine comme d'habitude.
Parfait, excellent. Alors, mais très content. Merci pour la confiance. On a eu du plaisir. Puis, mais là, j'avais peur de vivre une dépression parce que une campagne électorale, tu sais, il y a des
citations.
Ah, mais là, comme je reviens vendredi, ça va aller. Là.
Bon, ben parfait, excellent. Salut Irénée, passe une belle semaine.
Salut, bye.
Salut, bye. C'était Irénée Rutema, un personnage qu'on adore, un nouveau chroniqueur politique pour nous depuis quelques semaines. Et vous avez toujours des commentaires positifs. Bon, Pascal, on a parlé énormément de l'élection municipale et avec raison depuis le début de l'émission. Mais qu'est-ce qu'il y a à suivre d'autre dans l'actualité?
Alors, Bruno Marchand... Non, je fais des farces.
Attends, Bruno Marchand, tu l'as été élu? Y avait-tu une élection hier? Qu'est-ce que c'est passé?
Oui, mais c'est sûr que ça tourne autour de ça. On est dans une éclipse médiatique. Veux pas. Par contre, je veux t'amener dans un cas qui marque un peu l'imaginaire. On parle d'un meurtrier qui a attaqué au hasard des passants puis qui avait poignardé aussi à mort une pure inconnue dans un centre d'achat. On est du côté de Saint-Hyacinthe, on n'est pas à Québec. Mm-hmm. Puis ça, c'est il y a 4 ans. Donc, si vous creusez en votre mémoire, vous en souvenez, c'est sûr. On
exactement.
Se demandait pourquoi. Et ça avait nourri aussi un climat de méfiance dans la population. Et c'est ce qu'on a dit en cours. C'est des attaques qui sont inexpliquées. Alors, c'est sûr que ça provoque toujours un genre d'inquiétude collective. Là. Et on a réalisé et fait réaliser à plusieurs citoyens que ça aurait pu se passer n'importe où. Marc-André Houle a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Fallait être très strict, très sévère. Une peine automatique parce que le mois dernier, l'accusé avait été reconnu coupable par un jury du meurtre prémédité de Manon Savoie. Le drame, on remonte en 2021, au 11 août 2021, sortait un peu de la pandémie tout en étant un peu à cheval sur celle-ci, mais un ancien espoir du baseball majeur, il arrive aux Galeries Saint-Hyacinthe, il a semé la panique, il attaque gratuitement les passants. Et d'abord, c'est une aînée de 86 ans qui l'a poussé au sol en sortant de l'autobus et il a asséné des coups de poing. Donc, il avait volé 2 couteaux dans un commerce, il s'était rendu dans une bijouterie, puis en moins de 6 minutes, ben là... Il y a une femme qui se trouve pour faire changer la pile de sa montre à la bijouterie. Puis Marc-André Houle l'a attaqué par derrière. Ouf. Il y avait eu photo aussi de tout ça. Il s'est acharné sur ses victimes. C'est vraiment épouvantable comme histoire, mais on ne peut pas revenir là-dessus. On se demandait un peu ce qui se passait dans le dossier. Puis des fois même, On oublie, hein? On oublie ce qui se passe.
Mais tant mieux, reconnu coupable, prison à vie, puis pas de libération avant 25 ans, c'est une bonne nouvelle.
D'autres nouvelles en ce qui concerne l'immigration et tout ça. Donc, une mère qui a été expulsée du Canada, elle a fait affaire avec un avocat qui était radié du barreau, donc l'ex-avocat, qui a aussi été condamné à une amende salée pour avoir pratiqué illégalement la profession. Quand on parle d'ordre, là, ben, le barreau en est une.
Oui.
Organisation, en fait, qui régit tous ceux qui sont avocats. Il faut que tu payes à chaque année, il faut que tu exerces aussi dans les technicalité du barreau. C'était pas chose pour un jeune homme de 26 ans dont la femme a été expulsée du pays après avoir fait affaire avec un avocat radié. Donc, il a décidé de la suivre au Mexique, d'y lancer un casse-croûte typiquement québécois en attendant de pouvoir rentrer au pays. Donc, c'est des gens qui se sont fait veut pas avoir là-dedans. Mais en même temps, c'est une histoire un peu triste où on voit l'importance de bien faire les choses, surtout dans le dit contexte. Quand on sort des élections aussi, on peut lire certaines affaires ce midi en fait, ce qu'il faut savoir, il y a tout ce qui tourne, je dis là, ça revient toujours autour de ça, mais tout ce qui tourne aussi autour des conflits à l'international.
Oui.
L'Ukraine qui a reçu d'autres systèmes de défense aérienne pour contrer la Russie. Quand on disait qu'on allait mettre fin à cette guerre-là avec Donald Trump, on est loin de ça.
On est loin de ça. D'ailleurs, parlant d'Ukraine, BLVD.fm, Derek Blouin-Berry, on l'a reçu dans Marceau le matin. Vendredi, il est présentement là, en transition pour aller faire sa 5e mission en Ukraine, 50 jours là-bas.
Il est tellement intéressant, je suis contente qu'on le prenne régulièrement ici à Boulevard parce que c'est un point de, tu sais, de comment dire, une courroie de transmission d'informations très importante.
Vraiment.
Quand ça nous semble loin, ce genre de conflit-là, mais il faut savoir que là, on a reçu un nouveau système de défense aérien. Cette fois-ci, c'est Patriot de fabrication américaine pour contrer les bombardements quotidiens de la Russie. Donc, c'est un peu ironique hein, quand t'entends ça, veux pas, mais on a annoncé ça du côté de la bouche de Volodymyr Zelensky qui est président de l'Ukraine. Il y a des drones russes qui ont tué un homme puis blessé 5 membres de sa famille, dont 2 enfants, dans la dernière attaque nocturne.
Tant mieux. Pascal, je te parlais de ma soirée de baseball de samedi passé. OK, tu prêtes ça? C'était l'extase de la 3e manche.
Bo Bichette is the best hitter in baseball this year with runners in scoring position. He hit 380. Fly ball deep center. Edmonds going back. The ball is gone long. 3-run home run. Bo Bichette. Breaking ball. The Jays on the board first. In one swing.
Là, t'imagines. Ah, là, t'imagines, on mène 3-0. C'est la 3e manche. On est complètement en feu. On se dit, ça y est, on va l'avoir. Puis là, ça devient 3-1. 3-2. Là, les Jays prennent les devants 4-2. 4-3. Un retrait de fin en 9e manche. Il nous reste 2 retraits pour fêter. Puis Miguel Rojas frappe un coup de circuit en solo. C'est 4-4. On se retrouve en 11e manche et voici ce qui arrive.
Smith, it's a high fly ball to deep left field. It's got a chance. It is gone. It's Will Smith in game 7. And in the 11th inning of game 7, the Dodgers lead for the first time.
Pour la première fois du match, les Dodgers prennent les devants en 11e manche. Un coup de circuit de Will Smith, le receveur des Dodgers, qui devient ainsi le 5e joueur de l'histoire de la franchise à avoir produit le plus de points en série. Mais là, après, un retrait. Vladimir Guerrero nous frappe un double en 11e manche. Et là, on se retrouve avec Vladimir Guerrero au 3e but et Edson Barger au 1er but pour Alejandro Kirk qui a frappé vraiment des gros coups sûrs dans les séries. Donc, la foule est en son extase. Tout le monde y croit encore. On sait, on va aller la chercher quand même, cette série mondiale-là.
The strike's on Kirk. And the pitch. And a broken bat. Grounder to short. And the Dodgers turn it.
Un double jeu, Pascal. Le bâton du joueur des Jays a explosé sous l'impact. Donc, ça fait en sorte que la balle a été frappée très mollement. Et comme c'est sûrement le plus lent coureur du baseball majeur à l'heure actuelle, ça a été facile de tourner le double jeu.
Les Jays
ont perdu 5-4.
Le prenez-vous ou vous vous dites « Ah, c'est vraiment la faute de la conception du bâton? »
Oh non, c'est comme ça. Ça explose des fois les bâtons et les lanceurs lancent tellement la balle fort. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, défaite des Jays, on en parle tout à l'heure à 13h30 avec Patrick Scalabrini. Comment on se remet d'un revers aussi catastrophique que ça.
Jeff, si on veut sortir un peu de ce qui nous entoure en termes d'actualité, ce soir, c'est le retour d'un podcast, le podcast de Sylvain Dancause, le prof Dancause, à 20h.
À 20h, prof Dancause, à 19h, prof Dancause qui va être là pour une troisième semaine de 5. Et ça va être très intéressant parce que c'est Karine Hamel, psycho-éducatrice, qui va justement être avec le prof Dancause. On va parler de la gestion des comportements à l'école. Hey, on s'en pose-tu des questions là-dessus?
Oui.
Comment qu'on agit avec un jeune qui est en crise, comment qu'on doit faire avec un jeune qui écoute jamais, avec un jeune qui a des comportements violents. Donc, on va parler de tout ça avec Karine Hamel dans le podcast Classe à part avec prof Dancause et Pascal. Tu le sais, c'est une présentation de la Caisse des Jardins de l'éducation qui vous accompagne avec constance et engagement parce qu'être là pour la communauté qui façonne notre avenir, c'est notre raison d'être. Alors, ne manquez pas le podcast Classe à part ce soir, 19h.
Oui, 19h, parce que si vous fiez sur mon 20h, vous l'avez manqué.
Oui, vous l'avez manqué. Ça va être disponible également sur notre site. Pascal, je sais que tu t'attardes énormément à l'actualité chinoise, à ce qui se passe en Chine, l'espionnage au Canada, aux États-Unis.
Depuis des années.
Bien là, on a Gilles Levasseur qui va nous parler de cette visite de Mark Carney en Chine. Vendredi dernier, il a rencontré Xi Jinping, le président chinois. Première rencontre en 8 ans entre le premier ministre canadien et le président chinois. Donc, on parle de ça avec Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Immédiatement après cette courte pause, c'est à l'émission On en jase sur Boulevard 101.